lors, par exemple, en direct, lors des émissions sur le livre de Michel Dragon. Je rappelle qu'on vient de publier, de rééditer. Nous sommes 17 sous une lune très petite. Phrase extraite du journal de bord de Che Guevara, quelques heures avant de se faire liquider par l'armée bolivienne. Et puisqu'il n'était que blessé, hein, il est exécuté. Et qui relate un peu un passage très important, ce qu'on a appelé la lutte de la tricontinentale, c'est-à-dire les mouvements de libération nationale en Afrique, en Asie et en Amérique latine, sous la forme de guérilleros qui vont s'engager dans la foulée. D'ailleurs, Michel Dragon a séjourné quelques mois à Cuba. Donc on est dans la période des années, début des années 60, où Cuba apparaît un peu comme un phare. Hein. Il y a toujours eu des phares. Hein. Après, ils sont plus ou moins éteints. Mais il y en a eu en Russie, il y en a eu en Espagne, il y en a eu à La Havane. Et donc, c'est un peu... Et ce qui est important, je trouve, dans cet ouvrage, c'est un roman, quelques personnages, hein, qui se prénomme Carlos, c'est de resituer un peu les visages des figures montantes de ces peuples qui ont combattu les armes à la main, l'impérialisme capitaliste. Et aussi un retour sur leur destinée, qui souvent sera tragique. Hein, c'est-à-dire, après avoir combattu, certains ont fini plusieurs, même dans des bains d'acide. Voilà. Comme Patrice Lumumba ou d'autres. Et voilà, c'est à la fois un roman qui intéresse les lecteurs, comme les premiers échos qu'on a en témoignent, de Michel Dragon, mais aussi des gens qui s'intéressent aussi aux questions politiques et aux questions des luttes politiques d'émancipation à travers le siècle. Et là, il y a vraiment il y a même des formules qui sont très intéressantes, parce que c'est comme un écho parfois à ce qui se dit aujourd'hui, où il parle de la domination blanche dans ces années-là. Bon, mais c'est aussi, c'est pas que les continents, c'est aussi une immersion dans le mouvement des Black Panthers. Hein, il va contacter le mouvement syndical, le personnage. C'est vraiment un voyage dans une période de l'histoire. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf que, je rappelle, nous avons un colloque le 8 et 9 juin. On aura l'occasion d'en reparler, mais quand même, j'insiste, réservez vos dates, ne partez pas en vacances à ce moment-là. C'est le 8 et 9 juin à Paris, et il y a un certain nombre d'intervenants. Hein, c'est à l'AGK, 177 rue de Charonne, ça dure 2 jours. Avec à la fois des intervenants, certains sont universitaires, comme Sarah Agmatari, qu'on a déjà reçu ici, hein, à propos de l'exposition Dragon qui avait eu lieu au musée d'histoire sociale de Montreuil, qui fera une intervention sur Michel Dragon et le savoir. Il y aura Thierry Maricourt qui abordera Michel Dragon libre et libertaire. Thierry Paco qui reviendra sur les villes et architecture émancipatrice chez Dragon. Il y a ce texte. Philippe Jeunesse, dont je parlais tout à l'heure, qui abordera Dragon et la littérature prolétarienne, parce que là aussi, il y a tous les débats, qu'est-ce que la littérature prolétarienne, qu'est-ce qu'elle n'est pas, je suis pour, je suis contre. Donc, voilà. J'aborderai, moi, Dragon et mai 68, et il y aura d'autres, il y aura des films, hein, j'y reviendrai plus précisément. Le soir du 8, il y aura une intervention théâtrale de Abby Patrix, hein, à partir de textes de Michel Dragon. Il y a Michel, ici présente, qui nous parlera de l'historien de l'art, d'après son livre Gustave Courbet, peintre de la liberté. Harry Bellet, qui parlera de l'art, pourquoi faire. Sylvain Boulouk, les correspondances de Dragon avec les anarchistes. Patrick Verdun, qui a fait un travail bibliographique extraordinaire. D'ailleurs, il nous a bien aidé pour notre livre qu'on vient de rééditer, mais qui parlera des réalités virtuelles des rencontres amicales de Michel Dragon. Didier Denax, qui abordera Michel Dragon et des chemins de travers de la littérature. André Dervin, qui publie une biographie. Et il y aura aussi, en permanence, des films qu'on pourra voir dans une salle en boucle, hein, deux films sur Dragon. Il y a d'autres initiatives qui ont lieu en Vendée. Hein, il y a d'autres initiatives qui ont lieu en Vendée et dans d'autres régions, à Nantes, hein, on y reviendra tout au long. Il y en a le 16 février, je crois que c'est à La Roche-sur-Yon, ou à Fontaine-Comte, j'en reparlerai dans l'émission de février. Et voilà, il y a plusieurs initiatives pour ce centenaire, c'est un moment de rencontre important. Voilà. Et nous, on sera peut-être associés à d'autres sur La Roche-sur-Yon en mai ou juin, avec des compagnons sur place qui nous ont contactés et avec qui on va essayer d'élargir encore ce travail de diffusion. Voilà, je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui avec cette émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature ». Et nous allons terminer en écoutant une nouvelle fois, parce que moi je l'aime bien, Neil Young, « Heart of God ». Voilà, au revoir et rendez-vous au mois de février.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans voix ni maître de la Fédération anarchiste. Maintenant, place à l'émission Civis Pacem. Bonne écoute.
Totalement épaulé par l'armée contre les olives.
Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors, comme vous le savez, depuis plus de 3 mois, l'armée israélienne fait la guerre aux Palestiniens de Gaza. Et le gouvernement israélien n'entend pas cesser les bombardements. Bombardements qui ont déjà tué des milliers d'enfants et des dizaines de milliers de civils. Nous devons donc, dans notre émission Civis Pacem, comme nous le faisons toujours, condamner les crimes de guerre et particulièrement les crimes de l'armée israélienne que rien n'arrête. Il faut dire que cette guerre éloigne toujours plus un retour à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Nous allons donc écouter aujourd'hui Pierre Stamboul. Pierre Stamboul est membre de l'Union juive française pour la paix. Pierre Stamboul écrit régulièrement dans la revue Émancipation, que nous lisons avec beaucoup d'attention, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il connaît très bien la Palestine et Israël. Et de plus, Pierre Stamboul était en Égypte au Caire avec des Palestiniens au moment du 7 octobre 2023. Et depuis, il suit de très près le déroulement de la guerre à Gaza, qu'il n'hésite pas à qualifier de génocide. Pierre Stamboul habite à Marseille. Notre conversation a donc été enregistrée à distance et le son n'est pas toujours parfait. Mais son point de vue sur la guerre est important et mérite d'être entendu. Alors nous l'écoutons.
J'ai à te demander, puisque tu connais très bien Israël et la Palestine et que tu as des informations très récentes toujours sur le conflit israélo-palestinien, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, donc nous sommes le 11 janvier 2024, est-ce que tu peux nous faire une petite analyse de la situation aujourd'hui telle que tu la ressens ?
Alors d'abord, je n'emploie pas le mot conflit. Ce n'est pas… c'est une guerre. C'est une guerre de destruction du peuple palestinien, d'éradication. C'est une continuation avec volonté d'en finir de la part du gouvernement israélien de l'existence en tant que peuple du peuple palestinien. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où la direction israélienne et assez logiquement le sionisme a abouti au fascisme et au suprémacisme, où la direction israélienne pense qu'elle peut faire subir aux Palestiniens ce que les Amérindiens des États-Unis ou les Aborigènes d'Australie ont subi, c'est-à-dire une défaite en tant que société qui leur interdise de revendiquer leurs droits et qui soit les expulse, soit les marginalise définitivement. Il y a l'Union juive française pour la paix. Nous avons des correspondants à Gaza. J'ai été 2 fois à Gaza. Nos correspondants dans les pires des conditions, c'est-à-dire sous l'attente, puisqu'ils ont été, ils ont de nombreux morts dans leur famille et ils ont été, comme la quasi-totalité de la population de Gaza, déplacés une ou plusieurs fois. avec l'argent que acrobatiquement on arrive à envoyer, à organiser maintenant des secours de première urgence qui sont des secours de survie. C'est-à-dire que les premières choses qu'ils ont pu donner aux réfugiés, c'était des tentes, c'était des abris, c'était des couvertures, c'était du plastique pour se protéger de la pluie. Et puis maintenant, c'est de la nourriture, c'est-à-dire qu'ils réussissent à organiser des cantines collectives, mais les prix ont explosé, il y a tellement peu de nourriture à Gaza que bon, nos finances sont dues à y survivre. Donc j'invite les auditeurs de Radio Libertaire à aller sur le site de l'UJFP et à donner, il y a une possibilité de donner, on leur garantit que l'argent finit par arriver et on donne des comptes rendus quotidiens de ce qu'on fait. Donc voilà, le peuple palestinien et surtout celui de Gaza est dans une situation actuellement de survie, ce qui est quelque chose d'assez inimaginable. Gaza était une société incroyablement diverse, pluraliste, active, résiliente, une population hautement éduquée, vivant dans des conditions atroces de 17 ans de blocus. Donc voilà, l'analyse que je fais, c'est on essaie aujourd'hui d'éradiquer cette population. Ce qu'on appelle la communauté internationale qui prétendait défendre le droit face à ceux qui en étaient sortis, je pense à la Russie, l'Iran, la Syrie, la Chine, tout ça, elle montre que sur la vie humaine, c'est des questions de droits fondamentaux. Elle est totalement sortie des clous. Elle accepte aujourd'hui d'armer un État génocidaire.
Dans le numéro de novembre de l'Émancipation, tu emploies justement le mot génocide. On l'a entendu aujourd'hui puisqu'il y a l'Afrique du Sud qui a demandé au tribunal international une enquête sur le génocide. Mais au début, on n'employait pas ce mot de génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment l'employer ?
Alors, totalement, pour plusieurs raisons. Ce que je disais, c'est en 3 mois, 1,5% de la population de Gaza a été tuée. C'est ce que la France a eu pendant la totalité de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même se représenter ce que ça veut dire. Après, dans le droit international, si on se réfère à lui, tel qu'il a été défini après 1945, autant le mot terrorisme n'existe pas en droit international. Et si terrorisme veut dire tuer des civils désarmés, il est évident que les Gazaouis ne jouent pas dans la même division que l'État israélien. Il y a quand même plus de 10 000 enfants qui sont morts à Gaza depuis le 7 octobre. Mais le mot génocide dans le droit international veut dire autre chose. Quand on affame une population, quand on la prive du moyen d'exister normalement, quand on la déplace, quand on la prive d'eau, tout ça, dans la définition internationale du mot génocide, ça y est. Donc si la Cour de La Haye juge la plainte de l'Afrique du Sud dans le droit fil de ce qu'est le droit international, incontestablement, aujourd'hui, il y a génocide. Je précise que les mots crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide sont totalement définis de façon très précise dans le droit international. Et la politique de l'État d'Israël actuellement, elle coche les 4 cases.
Ce qu'il faut très bien distinguer, c'est le peuple de Gaza et le Hamas. Alors, quelle est la définition que tu donnes au Hamas ? Certains ont voulu absolument traiter ce mouvement de résistance de terroriste. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment… Ils ont fait des actions terroristes, ça c'est sûr. Mais comment on peut définir le Hamas par rapport au peuple de Gaza ?
Alors premièrement, je l'ai dit, le mot terroriste n'existe pas dans le droit international. Si ça veut dire tuer des civils désarmés, oui, mais enfin l'enquête de Haaretz et de Libération sur ce qui s'est passé le 7 octobre parle de 697 morts le 7 octobre, dont 16 enfants. Pour moi, il y a eu crime de guerre, je définirai ce qui s'est passé le 7 octobre en utilisant les mots de nos amis anticolonialistes israéliens ou nos amis de GVP, Jewish Voice Peace aux États-Unis, qui ont occupé la statue de la liberté et qui ont occupé la gare centrale de New York avec comme mot d'ordre « Stop genocide in Gaza », arrêter le génocide à Gaza. Eux, ils disent « Nous avons des amis ou des proches morts ou les kidnappés, mais la responsabilité repose totalement dans le gouvernement raciste et suprémaciste d'Israël. » Je reprendrai les paroles de Nourit Peled, grande militante israélienne, fille de Matti Peled, qui a été un des premiers négociateurs avec les Palestiniens, et qui disait, quand sa fille Smadar a été tuée dans un attentat du Hamas il y a 30 ans, Netanyahou lui avait écrit, et elle a répondu à Netanyahou, « Tu es un monstre, c'est toi le responsable, tu obliges nos enfants à être des assassins ou à être assassinés. »
Vous venez d'entendre Naï Barghouti. Naï Barghouti est une chanteuse palestinienne qui a souvent parlé dans ses compositions de la souffrance du peuple palestinien. Et Naï Barghouti est aujourd'hui une voix très appréciée dans le monde entier. Je vous rappelle que dans cette émission, nous sommes en compagnie de Pierre Stamboul. Pierre Stamboul est membre de l'Union juive française pour la paix. Nous parlons dans cette émission des massacres de Palestiniens par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, massacres qui durent depuis déjà plus de 3 mois. Mais il faut aborder aussi les attaques de la branche armée du Hamas qui a mené donc une attaque le 7 octobre 2023 contre des Israéliens. Pierre Stamboul a eu l'occasion, lors de ses déplacements à Gaza, de rencontrer des représentants du Hamas. Il peut donc nous donner son analyse sur ce mouvement de résistance palestinien.
Quand il y a eu des élections en 2006, dans Palestine, le Hamas a obtenu 39% des voix, le Fatah en a obtenu 33%, et le reste des votes s'est dispersé dans toute une série de petites listes, principalement de gauche. Il n'y a pas eu de différence sensible entre le vote de la bande de Gaza et le vote de la Cisjordanie. Et par exemple, dans la bande de Gaza, le Hamas était nettement majoritaire dans Gazaville, mais il était battu par le Fatah à Rafah, pour des raisons internes à la société palestinienne. Le vote pour le Hamas a été pour moitié un vote d'adhésion à ses conceptions théologico-politiques et surtout ça a été un vote de sanctions et de sanctions contre l'autorité palestinienne sur deux questions qui sont, un, la corruption de l'autorité palestinienne, qui était absolument évidente et qui reste très valable, en plus de son autoritarisme et de sa collaboration. Et la deuxième raison, c'était un vote sanction contre Oslo, qui ont été une gigantesque supercherie et qui ont abouti à une catastrophe pour le peuple palestinien. On aurait souhaité que une gauche un peu unis et pu représenter une autorité palestinienne, mais bon, il y a une question générale depuis maintenant quelques décennies sur ce qu'on appelle improprement la gauche et qui était vrai aussi en Palestine. En 2016, j'ai rencontré tous les partis politiques à Gaza. J'ai rencontré la direction politique du Hamas, j'ai rencontré deux des gens du Fatah, assez antagoniques d'ailleurs. J'ai rencontré le FPLP et toute une série de petits partis de gauche. Il faut comprendre que la société de Gaza est extrêmement pluraliste et ce qu'on appelle la société civile à Gaza, celle que nous soutenons, elle est extrêmement dégagiste. Elle dit des partis politiques, ils défendent leurs propres intérêts, ils sont corrompus, ils sont autoritaires, nous n'avons pas de Nelson Mandela, leur division est une victoire de l'occupant, et je serais assez d'accord avec ces positions-là. Le Hamas, ça ne fait pas de doute, il y a des formes de corruption, il y a des formes de détournement à son profit des sommes qu'il reçoit. Il a remplacé une fonction publique qui avait été souvent recrutée sur base clanique par l'autorité palestinienne, par une fonction publique qui a recruté sur une base clanique. Il a essayé d'imposer certaines de ses conceptions à la société de Gaza. Dans certains cas, il a réussi sur la mixité des écoles primaires. Dans un certain nombre de cas, il a échoué. Mais voilà, il y a un incroyable pluralisme de la société de Gaza. Quand on rentre dans un taxi actif, on entend immédiatement « Vive le Hamas !»« Non, abat le Hamas, ils sont corrompus !» Et les gens en discutent librement. Présenter Gaza comme une société soumise, c'est absolument faux. Comme une société qui serait terrorisée par des barbus au pouvoir, c'est absolument faux. La présenter comme une espèce de bande de fanatiques qui sont prêts à se battre, c'est absolument faux. C'est pas ça du tout, Gaza. C'est une société hautement éduquée, avec un pourcentage, avec... alors qu'il y en a 35% dans l'Égypte voisine, avec 100 000 étudiants dans 6 universités, avec 21 000 diplômés chaque année qui acceptent de travailler gratuitement pour sauver leur société parce qu'il n'y a pas de travail à Gaza. Donc assimiler Gaza au Hamas, non. Le Hamas est une partie de la société gazaouite. comme c'est une partie de la société palestinienne, leur importance est largement liée au fait que c'est les seuls qui ont été dans une situation historique de paix. On aurait aimé qu'ils résistent autrement, mais il ne faut jamais oublier que en 2019, il y a eu partie de la société civile de Gaza, les marches du retour, qui étaient totalement paniques, et que le bilan, c'est 350 morts et 8000 estropiés. Donc, fait que la cocotte minute est explosée que le 7 octobre, parce qu'ils réussissent à franchir la barrière de séparation, ils vont porter la guerre sur le territoire israélien. C'est logique. Assimiler le Hamas à Daesh, c'est d'une stupidité totale. Savoir que les salafis ont essayé d'apparaître à Gaza en 2015, le Hamas a massacré, que plusieurs dirigeants du Hamas ont été massacrés par Daesh dans le Sinaï, donc ça n'a strictement rien à voir. C'est une stupidité de croire que le Hamas, c'est Daesh. Non, le Hamas, c'est les frères musulmans. Alors évidemment, j'ai été en Égypte, les frères musulmans en Égypte ont laissé de très bons souvenirs, mais très franchement, entre l'Égypte de Morsi et l'Égypte du dictateur Sissi, porté au pouvoir par l'Arabie Saoudite et l'Occident, il y avait 100 fois plus de liberté et 100 fois plus de démocratie à l'époque de Morsi qu'à l'époque de Sissi.
Alors, est-ce que tu penses que cette position de Netanyahou de dire « nous allons éradiquer le Hamas », est-ce que c'est absolument impossible?
C'est totalement moral criminel et totalement impossible. C'est-à-dire que s'imaginer que le Hamas c'est des tunnels sous l'hôpital Al-Shifa, c'est à peu près comme du même style que ce qu'on disait de l'Irak, fameuse arme de destruction massive, dont le prétexte a fait 600 000 morts, évidemment n'existait pas. S'imaginer que le Hamas, c'est une armée, c'est l'Iran, où vous en voyez quelques-uns qui s'entraînent dans la rue. Mais je l'ai dit, c'est les groupes armés dans les familles, donc ils sont partout et nulle part. Il y a tous les partis politiques ont une branche armée. La plupart des branches armées du FPLP, du Fatah, du Parti communiste, de l'Union démocratique palestinienne sont des branches uniquement défensives. Et il y a deux partis qui ont des branches armées à la fois défensives et offensives. C'est le Hamas et le djihad islamique, qui sont évidemment clandestins, mais qui sont partout et nulle part à la fois. Alors, il y a tous les fantasmes sur le monde souterrain. Évidemment qu'il y a des tunnels qui ont été creusés à Gaza, parce que c'est obligatoire quand vous avez un territoire qui est surveillé en permanence et bombardé en permanence. Mais l'espèce de fantasme d'une armée de masse qui serait sous terre et qu'on va aller extraire comme on va chercher des lapins dans un terrier, ça, c'est du fantasme de Netanyahou. L'histoire d'éradiquer le Hamas est complètement stupide. Le but des sionistes a toujours été de ne pas avoir de partenaire pour la paix. Quand le Fatah et le FPLP étaient hégémoniques dans l'OLP et dans le monde palestinien, qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants israéliens? Ils les ont arrêtés, ils les ont tués, ils les ont emprisonnés, ils les ont humiliés. Ils ont fait monter les religieux. Et aujourd'hui, parmi les choses qu'on dit sur Netanyahou, mais qui est réalité, c'est qu'il a tranquillement laissé depuis des années le circuit bancaire venu du Qatar et de Turquie approvisionner le Hamas, parce que quelque part ça l'arrangeait, et parce qu'il voulait à tout prix qu'il y ait la division entre Ramallah et Gaza, qui est un impératif pour les Israéliens, pour les dirigeants sionistes. Il n'y aura pas d'État palestinien tant qu'il y aura deux gouvernements rivaux. Après avoir déconsidéré l'autorité palestinienne, qui était au départ une autorité de collabo, quand on regarde ce qui a été réellement signé au moment des accords d'Oslo, ben il essaie d'abattre l'autre petit. Mais la seule volonté de Netanyahou et des dirigeants sionistes, c'est qu'il n'y ait aucune force palestinienne capable de réclamer ses droits. Je le dis, le but depuis le départ, il y a 120 ans, c'était soit que les Palestiniens n'existaient pas, qu'il se fondrait dans le monde arabe et qu'en tout cas, il n'y ait jamais d'État palestinien.
Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito in furia il pirata americano,
ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso il verde, bianco e nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione, fino alla vittoria! Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson intitulée « Palestine rouge ». Cette chanson est interprétée par un groupe italien. Alors en effet, dans de nombreux pays et depuis longtemps, des artistes ont voulu soutenir le peuple palestinien dans sa lutte. Mais malheureusement, les chants, les poèmes, les écrits, les films et les pièces de théâtre et j'en passe, n'ont pas réussi à arrêter l'armée israélienne qui, depuis 70 ans, fait la guerre aux Palestiniens. Pierre Stamboul, membre de l'Union juive française pour la paix, nous informe depuis longtemps sur les atrocités de cette guerre, en témoignant auprès de tous les publics qui souhaitent l'entendre et aussi en écrivant régulièrement dans la revue Émancipation.
Alors justement, tu disais dans cette, je reviens à cet article de l'Émancipation que j'ai lu en détail, tu parlais justement du début, en somme, le but de guerre ce serait plutôt une Nakba, c'est-à-dire faire partir le peuple palestinien et justement en le martyrisant comme on est en train de le faire. Est-ce que c'est vraiment le but et est-ce que les Palestiniens, justement en restant à Gaza, de toute façon pour l'instant malheureusement ils ne peuvent pas en sortir, mais en restant à Gaza veulent montrer aussi qu'ils ne veulent plus quitter la Palestine?
Alors le but c'est certain, Smotrich l'a dit, il a dit s'il y a 200 000 Arabes à Gaza et non plus de millions, évidemment ce sera mieux. Il envisage de faire retourner les colons. Il a dû lire Tintin au Congo puisqu'il propose de faire partir les Palestiniens au Congo. Donc cette idée et puis quand on regarde ce qui est à l'œuvre aujourd'hui en Cisjordanie, avec des attaques incessantes et de plus en plus violentes des colons totalement épaulés par l'armée contre les oliviers, contre les villes, contre les camps de réfugiés, on comprend que c'est ça qui est à l'œuvre et c'est ça qui est voulu. Mais il y a en gros deux obstacles. Probablement, Israël pensait que l'Égypte allait accepter l'arrivée d'un assez grand nombre de centaines de milliers d'Israélites dans le Sinaï. Nous avons des informations fiables. J'étais au Caire le 7 octobre quand la guerre a été déclarée. On avait l'espoir d'entrer à Gaza et on en avait en tout cas l'autorisation française. Ce qu'on sait, c'est que dans toute la partie du Sinaï proche de la frontière de Rafah, la population a été évacuée depuis quelques mois maintenant. La partie égyptienne de la ville de Rafah est déserte et partiellement détruite, et les habitants ont été relogés à Port Saïd, à Ismaïlia, à Suez. Et donc probablement Sisi a pensé, puisqu'il est, c'est un collabo et un partenaire d'Israël depuis le début, mais dès qu'il y a eu le massacre qui a commencé à Gaza, il y a eu des manifestations monstres dans tout le monde arabe, y compris en Égypte. Les premières manifestations depuis le coup d'État de 2013, au Caire, elles ont lieu à Alexandrie, et Sisi a compris que s'il acceptait ça, à terme, il était mort. Donc il a clairement dit qu'il était hors de question que les Palestiniens viennent dans le Sinaï. Il y avait la Jordanie qui aurait pu être aussi un lieu où les envoyer. C'est pareil, là, il y a des manifestations quotidiennes à Amman pour soutenir le peuple palestinien. La moitié de la population de Jordanie est palestinienne. Et sans le roi de Jordanie a annulé des sommets qu'il avait prévus avec Biden et avec le roi d'Arabie Saoudite. Donc, là aussi, l'idée d'envoyer les Palestiniens en Jordanie, elle ne marchera pas. Et puis, il y a les Palestiniens eux-mêmes de Gaza, ils vivent l'enfer. Il est certain que beaucoup songent, y compris nos amis, à sortir au moins temporairement pour souffler, pour survivre. Mais ils savent depuis 1948 que quand on part, c'est définitif. Et il y a cette idée. Et de toute façon, ils disent « Et où aller ?» Il faut jamais oublier que la France, par exemple, ne donne pas de visa, qu'elle a fait sortir 168 personnes depuis le 7 octobre, mais qu'elle a même, y compris, laissé se faire patiner l'adjoint du consul de France à Gaza qui n'avait pas pu sortir. Donc, et puis elle a laissé l'Institut français culturel faire bombarder. Donc, l'idée qu'il y a une solution ailleurs, elle n'existe pas chez les Palestiniens, et tant qu'il va être possible de rester, ils vont rester. Donc, le plan de les faire partir, qui reste le plan, il va pas marcher. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les dirigeants israéliens? Probablement qu'ils vont essayer, je pense que c'est ça qui est en route actuellement, de négocier avec les États féodaux du Golfe le fait que ce soit eux qui prennent en charge Gaza dans un avenir proche. Je pense que c'est un peu ça qui est en train de se tramer.
Alors, tu disais aussi, d'après ce que j'ai lu, que ce qui s'est passé donc le 7 octobre était attendu, c'est-à-dire qu'on savait bien qu'un jour, il allait y avoir une explosion quelque part, parce que la colonisation et la situation dans toute la Palestine, ainsi Jordanie, Gaza, était explosive. Donc, comment tu pouvais dire ça, que c'était attendu?
Je reprends un peu l'expression de Michel Barchavski, quoi, l'expression cocotte minute. La Palestine a subi un nettoyage ethnique prémédité il y a 75 ans. Les Palestiniens sont dans leur très grande majorité des réfugiés expulsés de leur pays. Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont occupés depuis 56 ans. Plus hermétique par terre, par mer et par air depuis 17 ans. Dans une situation où il y a un grignotage permanent et que toutes les tentatives de résister pacifique, citer les marches de retour, sont écrasées dans le sang. Donc, l'idée que de se faire grignoter petit à petit et marginaliser petit à petit, c'était à l'œuvre, c'est ça qui a provoqué le 7 octobre. C'est-à-dire que avant le 7 octobre, il y a, pour ceux qui ont pris la décision, donc un tout petit groupe à la tête de la branche armée du Hamas, il y a l'idée que on va être grignoté petit à petit. Les États féodaux du Golfe vont terminer avec l'Arabie Saoudite, la normalisation avec Israël. Et donc, notre seule chance de survie, c'est faire un coup. Donc, on peut évidemment tout à fait discuter de la nature du coup. Nous, quand on était au Caire, on s'est réjoui de l'attaque, hein, je ne le cache pas. On savait pas qu'il y avait les morts civiles, on l'a découvert quelques jours après. Mais la première réaction des Palestiniens qui étaient autour de nous au Caire, c'est avec les kidnappés, on va enfin pouvoir faire revenir nos prisonniers. Faut jamais oublier que depuis 1967, 900 000 Palestiniens ont connu la prison. C'est 40% des hommes entre 18 et 50 qu'avant le 7 octobre, il y avait 1200 prisonniers politiques, dont des la perpétuité, dont des célèbres comme Marwan Barghouti, Ahmed Sadat, que depuis le 7 octobre, il y en a encore 5000 qui ont été arrêtés. Donc il y a eu cette idée, on renverse la table en faisant rentrer les prisonniers chez nous. Et l'idée que la Palestine allait capituler, la seule façon de ne pas capituler a été jugée à tort ou à raison, ça a été de lancer l'attaque.
Alors justement, tu parles de ce… Maintenant, on va parler un petit peu d'Israël, bien sûr, qui est à la fois une colonisation de la Palestine, mais en même temps un état d'apartheid. Alors, tout le monde ne reconnaît pas ça, les Israéliens les premiers, non, nous ne sommes pas une société d'apartheid, et pourtant, c'est bien ce qui se passe actuellement.
Alors, faut comprendre que l'apartheid comprend aussi un assez grand nombre de facteurs, que le jugement qu'Israël était un état d'apartheid a été porté il y a assez longtemps, notamment par le tribunal Russell sur la Palestine, tribunal symbolique, qui s'était réuni, sa dernière réunion était au Cap, en Afrique du Sud, et que les combattants sud-africains de l'apartheid ont dit que sur bien des aspects, ce qui se passait en Palestine était bien pire que ce qu'eux avaient subi de la part des Blancs sud-africains. Mais depuis, en utilisant la définition internationale de l'apartheid, des mouvements comme Human Rights Watch, comme maintenant Amnesty International, qui a fait 3 ans d'enquête avec un rapport de 200 pages, ont conclu que c'était un état d'apartheid. Des associations israéliennes, comme B'Tselem notamment, ont conclu qu'Israël était un état d'apartheid. Il n'y a pas de doute, mais je vais m'attacher sur peut-être ce qui est le plus fort à mes yeux dans la notion d'apartheid. C'est la fragmentation. De la même façon que les Blancs sud-africains avaient fragmenté les Noirs en créant les Bantoustans, les Israéliens ont fait éclater le peuple sud-africain. Il y a entre Méditerranée et Jourdain 7 millions de Juifs israéliens et 7 millions de Palestiniens. Sauf qu'on a fait éclater ces 7 millions de Palestiniens en autant de sous-statuts de domination différents. Il y a, si j'exclus Jérusalem, 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, mais qui sont totalement, les villes et les villages palestiniens sont totalement encerclés par les colonies, par le mur. Ils ont eux-mêmes été fragmentés en 3 zones A, B, C, un gros vieux juridique qui fait qu'on peut pas aller de l'un à l'autre. La Palestine est totalement bouclée par un nombre incroyable de checkpoints. C'est comme ça que se voit l'apartheid en Cisjordanie. Il y a Gaza, qui est sous blocus hermétique par air, par mer et par terre depuis maintenant 17 ans, avec interdiction de commerce avec la Cisjordanie, avec interdiction de commerce tout court, puisque toutes les marchandises passent par Israël. Il y a Jérusalem-Est, qui a un statut à part, le statut de résident, mais il y a une volonté totale depuis des années que les colons deviennent majoritaires à Jérusalem-Est, donc il y a des quartiers qui sont systématiquement attaqués et colonisés, comme Sheikh Jarrah, comme Silwan. Il y a les Palestiniens de 48, les Palestiniens d'Israël, qui eux-mêmes sont attaqués, les Bédouins du Negev, il y a maintenant 160 000 Bédouins qui vivent dans des villages non reconnus, alors qu'ils ont la carte d'identité israélienne et qu'ils votent. Donc l'apartheid, c'est ça, c'est une fragmentation incroyable qui fait que, alors qu'il y a 7 millions, il y a une domination totale des uns et une soumission et une totale des... Donc pour moi, cette idée de d'état d'apartheid ne fait aucun doute. Elle est comparable à ce que les Noirs du sud des États-Unis ont pu subir ou ce que les Noirs d'Afrique du Sud ont pu subir. Les Israéliens, évidemment, quand ils se définissent comme un État démocratique, la blague qui se raconte en Israël, c'est que c'est un État démocratique pour les Juifs et Juifs pour les Arabes, mais c'est même plus un État démocratique. Le député au Verkassif, la Knesset, qui vient de dire qu'il soutenait la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, il va être exclu de la Knesset. Et bien avant lui, des députés comme Hazmi Bichara ou comme Hanin Zoabi ont été poursuivis. Il y a l'obligation en Israël d'être sioniste. Quand on n'est pas sioniste, on est illégal aux yeux de la loi israélienne. Il y a eu en Israël le vote de la loi Israël État Nation du peuple juif, qui est une calamité intégrale, mais ce qui précédait la déclaration d'indépendance était déjà une calamité, mais qui officialise l'apartheid, qui dit ouvertement que ceux qui ne sont pas juifs à l'intérieur de l'État d'Israël sont des étrangers dans leur propre pays. L'arabe n'est plus langue officielle. Même les Druzes qu'on avait conviés à l'armée et tout, maintenant se sentent complètement dépossédés de leur propre pays. Donc, je crois que nier qu'Israël soit un État d'apartheid, j'utiliserai comme juif le mot négationnisme. C'est du déni, mais au-delà de ça, c'est du négationnisme. Ça nie la réalité.
Nahi Barghouti, chanteuse palestinienne, a interprété Kantara. Et nous écoutons à nouveau Pierre Stamboul, membre de l'Union juive française. Je lui ai posé une question sur l'issue de la guerre que les Israéliens mènent à Gaza, déjà depuis plusieurs mois.
Les Palestiniens ont toujours dit que l'issue de cette guerre, elle repose sur deux choses. Leur capacité à eux de continuer de faire société, donc de ne pas subir le sort qu'ont subi les Amérindiens. Et là-dessus, avant le 7 octobre, malgré des conditions épouvantables, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, ils y arrivaient. Quand on voit le film Yalla Gaza de Roland Nurier, on voit le Gaza d'avant le 7 octobre, qui est tout à fait fidèle à ce que moi j'ai vu, et voilà, avec une population hautement éduquée qui éduque les enfants, avec une multitude d'associations petites, grandes, qui assurent la solidité du tissu social, qui font l'entraide, qui font le commun, qui font le périscolaire, le préscolaire, la défense des femmes, la défense des prisonniers, l'information, la culture, le sport. Voilà, ça c'était tout ça. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui qui est que cette société ne meure pas, que le tissu social puisse continuer à exister. Donc pour l'instant, c'est la survie immédiate. Je veux dire, quand on arrive à faire venir des couvertures dans des hôpitaux pour se curer, et qu'on sait que pour les Israéliens, tuer les femmes et les enfants, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour que ce peuple disparaisse. Donc aujourd'hui, assurer la survie de la population de Gaza, c'est important. Donc envoyer de l'aide, multiplier toutes les pressions pour que cet État suprémaciste soit sanctionné, c'est important. Et puis l'autre partie de la lutte, c'est ici. Ça se joue en Occident. C'est-à-dire que rien n'était possible si, dès le début, l'Occident et les dirigeants du monde arabe avaient sifflé la fin de la récréation. Rien n'aurait été possible sans le parapluie militaire et politique des États-Unis, sans le parapluie politique de l'Union européenne. Donc ici, multiplier partout les pressions pour obliger nos gouvernements complices à sanctionner cet État, c'est absolument indispensable. Il y a des succès, par exemple, aujourd'hui du BDS, le boycott des sanctions, le fait que Puma, qui sponsorise Israël, l'équipe de football d'Israël, arrête ce sponsoring, c'est important. Le fait que la campagne contre Carrefour, qui a ouvert des magasins dans les Cisjordanie et qui a envoyé des colis aux soldats israéliens, Carrefour soit sérieusement dans une difficulté qui risque de l'obliger, comme Orange autrefois, à arrêter ça, c'est sûr que c'est important. Il y a aujourd'hui un enjeu incroyable, le fait qu'il soit mis au banc de l'humanité, le fait que son image s'écoule, c'est aujourd'hui un enjeu.
Vous l'avez entendu, Pierre Stamboul compte sur les Juifs qui vivent en dehors d'Israël et qui voient au fil de la guerre que l'image d'Israël est abîmée, pourraient peut-être faire pression pour arrêter la guerre contre Israël. Mais l'on constate dans nos sociétés occidentales que toutes les personnes qui aujourd'hui soutiennent le peuple palestinien ou critiquent le gouvernement israélien sont immédiatement taxées d'antisémites. Alors j'ai demandé à Pierre Stamboul comment il est possible de réagir à ces accusations absurdes.
L'antisémitisme, je vais dire, parce que c'est mon histoire intime, que c'est d'une obsédée absolument sans nom. Voilà. Palestine, c'est une société non seulement pluraliste, mais ils ont conscience, par leur vie et leur histoire, qu'ils sont les gardiens des trois religions monothéistes. Donc, pour eux, ils savent que, quelque part, les descendants des Judéens de l'Antiquité, qui ne sont pas juifs, ce n'est pas le type proche-orient, et ils ont cette conscience-là. Il y a encore des symboles dans certains villages de Cisjordanie où on sait que les ancêtres ont été juifs. Il y a encore les Samaritains qui sont là-bas, qui sont des Palestiniens, et qui sont une dissidence du judaïsme qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ils ont cette conscience-là, quel que soit l'interlocuteur, ils nous disent l'occupation et la colonisation, nous n'avons rien contre les Juifs. Donc aujourd'hui, l'antisémitisme, qui est une maladie de l'Occident, le fait palestinien, ajoutons que tous les dirigeants de l'extrême droite mondiale soutiennent Israël, pris les dirigeants antisémites, qui sont des antisémites avérés, qui sont des fous de Dieu pour qui les Juifs doivent rentrer en Terre Sainte, chasser le mal, c'est-à-dire les Arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Que les grands amis Netanyahou, c'est Viktor Orban qui a réhabilité le régime pro-nazi de l'amiral Horthy, que tous les dirigeants de l'extrême droite européenne, Brinkmann du NPD néo-nazi allemand, Wilders qui vient de gagner les élections aux Pays-Bas, De Winter le flamand, Alliot le français, ont fait le voyage en Israël, que tous ont visité Yad Vashem, le mémorial du génocide, que Bolsonaro s'est permis à la sortie de Yad Vashem de dire les nazis étaient de gauche, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vraiment tout ce qu'on a, tout le relent des racistes, des fascistes, des islamophobes du monde entier, ils sont évidemment pour Israël, parce que c'est devenu l'état modèle de l'enfermement des populations dangereuses, de la façon dont on peut mater les Arabes, de la façon dont on peut enfermer les gens, des armes les plus sophistiquées qui vont servir à l'arrestation et les mouvements sociaux. Donc c'est pour ça que toute cette extrême droite est pro-israélienne. La manifestation, le 12 novembre, convoquée par Madame Braun-Pivet, elle est avec Habib Meyer soutenir Israël dès le 7 octobre, ont appelé à une manifestation qui n'était pas contre l'antisémitisme, qui était une manifestation d'appui au génocide qui était en train de commencer. Ces deux-là revenaient d'une visite de soutien génocidaire. Cette manifestation était particulièrement obscène, puisqu'on trouvait dans cette manifestation tout ce qu'on compte d'extrême droite. Monsieur Éric Zemmour qui explique que Pétain voulait sauver les Juifs. Monsieur Golnadel qui dit « Oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3 ». Donc tout ce relent de racistes invétérés sortait dans la rue le 12 novembre, en fait, pour soutenir Israël. Il faut bien comprendre que qu'est-ce qu'a été l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il est l'antisémitisme culminé avec le génocide nazi. Quand apparaît le racialisme à la fin du 19e siècle, il y a les races inférieures, qui sont les colonisés indiens, noirs ou arabes dans les pays colonisés, et en Europe, les races inférieures, ça va être les juifs et les tziganes. Bien évidemment, tout ça, c'est une invention de l'ennemi, et ça va mener au pire crime. Ça veut dire que les juifs ont été historiquement, pour reprendre les propos de Hannah Arendt, les parias asiatiques inassimilables en Europe. Et le sionisme en a fait des colons européens en Asie. Et donc aujourd'hui, ces manifestations-là, ce sont pas des manifestations contre la persécution des juifs, ces manifestations-là, c'est des manifestations pour soutenir des dominants qui sont les Israéliens. C'est absolument obscène, et j'en parle en tant que fils de résistant, issu d'une famille exterminée et dont le père était dans le groupe Manoukian.
J'ai aussi demandé à Pierre Stamboul, membre de l'Union juive française, est-ce qu'il est important que la communauté internationale réclame un cessez-le-feu immédiat dans la guerre qu'Israël mène à Gaza?
Bien sûr, c'est une condition immédiate, mais on va plus loin, bien sûr. Hein. Il faut un cessez-le-feu immédiat, il faut le retrait total d'Israël de la bande de Gaza, mais il faut la fin du blocus, il faut que cette société puisse vivre absolument normalement. Je veux dire que les Israéliens n'ont jamais eu que la Palestine n'existe pas. Et ce qu'ils font à Gaza, c'est que Gaza ne puisse pas exister. Et donc, il y a le cessez-le-feu, c'est une condition immédiate, ne serait-ce que de survie. Je veux dire que les messages que nous, si les gens vont sur le site de l'UJFP, nos correspondants, non seulement nous, on leur envoie de l'argent, mais ils racontent jour par jour est ce que subit la population de Gaza et l'utilisation des qui sont envoyés. La situation est vraiment catastrophique aujourd'hui. Donc le cessez-le-feu, qu'on arrête de dégommer des familles entières, des hôpitaux, des écoles, c'est une condition sine qua non. La famille du fondateur d'Ibn Sina, l'association Avicenne, association d'éducation populaire et d'aide psychologique aux enfants, le frère de Marcel, le fils de Marcel et le frère, non, le fils d'Abou Marcel et le frère de Marcel, il a été tué avec toute sa famille, 25 personnes, dans Gaza, c'était il y a 5 ans. Et ça, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc le cessez-le-feu, c'est une condition impérative.
بعينيها تقاتل
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre la célèbre chanteuse palestinienne Shubran Kamilia. Elle interprétait La vie d'un homme. Pour cette émission, Pierre Stamboul, membre de l'Union juive française pour la paix, nous a accordé un entretien au sujet de la guerre actuelle à Gaza. Je lui ai demandé, à lui qui connaît bien la société palestinienne, mais aussi la société israélienne, s'il y avait encore aujourd'hui en Israël des personnes qui s'opposaient à la guerre.
Il y a historiquement, depuis tout le temps, un mouvement anticolonialiste en Israël, certes affaibli, mais qui existe aujourd'hui. Alors, ils sont moins nombreux qu'ils ne l'ont été, très réprimés. Il faut savoir que parmi les 15% d'Israéliens qui ont quitté Israël, il y a beaucoup de gens de gauche, de gens qui étaient d'authentiques anticolonialistes, notamment ceux qui ont des enfants, parce que éduquer son enfant en Israël, c'est bien une gageure, hein, c'est accepter que l'enfant, quand il est au jardin d'enfants, fasse des tanks avec des bouchons et que quand il est à l'école primaire, il envoie des lettres aux soldats. C'est pas évident. Mais ce mouvement anti-guerre, il existe. Il y a aujourd'hui des réfugiés qui acceptent volontairement d'aller en prison alors qu'ils pourraient être réformés pour signifier leur opposition à cette guerre génocidaire. Il y a quelques manifestations. Mais voilà, ils sont, il faut le dire, pas très nombreux. C'est-à-dire que être anticolonialiste en Israël, être antisioniste, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, avec le gouvernement israélien, ils s'en prennent pas seulement aux Palestiniens. C'était une promesse qu'avait fait Itamar Ben-Gvir quand il a intégré le gouvernement Netanyahou. Ils s'en prennent aussi aux Juifs déloyaux. Et je sais pas comment dire. Il n'y aura fracture dans le front intérieur en Israël tant que cet État ne sera pas sanctionné. Mais ça, on a vu ça toujours dans l'histoire. La guerre d'Algérie s'arrête parce que il y a une rupture du front intérieur en France. Mais ce qui est rupture du front intérieur en France, c'est les 28 000 morts du contingent. La guerre du Vietnam s'arrête parce qu'il y a une rupture du front intérieur aux États-Unis. Mais ce qui fait la rupture du front intérieur aux États-Unis, c'est les 50 000 morts que les Américains ont eu au Vietnam. Et c'est le fait que la jeunesse qui est enrôlée là-dedans, elle ne veut plus y aller. Donc tant qu'il n'y aura pas de sanctions contre l'État d'Israël, tant que quelque part il n'aura pas à subir les conséquences du génocide qu'il inflige à Gaza, il ne passera rien. Enfin, il ne faut pas espérer que les choses vont se décanter à l'intérieur de l'État d'Israël. Elles ne peuvent se décanter que chez nous, où on va punir cet État. Deux fois dans son histoire, l'État d'Israël a été sanctionné. En 57, il ne voulait pas évacuer le Sinaï. Il y a eu une décision conjointe des États-Unis et de l'URSS au Conseil de sécurité, et il a été obligé en 15 jours de partir. En 1991, Itamar, l'ancien dirigeant du mouvement terroriste Groupe Stern, ne voulait pas négocier et Bushper voulait remodeler le Proche-Orient, entamer des négociations avec l'OLP. George Bushper a refusé de cautionner le prêt que Israël avait fait pour l'immigration des Juifs soviétiques, ce qui voulait dire une banqueroute de l'État israélien, et le gouvernement Shamir est tombé, ces négociations ont commencé. Donc ce que je veux dire, c'est que si on est assez fort pour obliger l'Occident à sanctionner l'État d'Israël, alors naîtra à l'intérieur d'Israël un mouvement anticolonialiste beaucoup plus fort, qui pourra donner une idée. Les porteurs de valises en France, ils étaient une poignée, n'empêche que il y a eu finalement l'indépendance de l'Algérie, parce que ce qu'ils portaient comme voix, c'était la voix juste.
Pierre Stamboul, est-ce que la communauté internationale a une responsabilité non seulement pour l'impunité qu'elle accorde à l'État colonial israélien, mais aussi dans la poursuite de la guerre que l'armée israélienne mène actuellement contre Gaza?
Responsabilité totale, responsabilité majeure. Il est bien évident que Israël est un État hautement mondialisé. Si la communauté internationale prenait des sanctions, je veux dire que c'est un État voyou, c'est-à-dire qu'il suffit que Antonio Guterres dise quand même c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire, pour qu'immédiatement il dise Antonio Guterres, antisémite, il faut débarquer et tout. C'est un État voyou, c'est un État de gangsters. Et tant qu'ils ne seront pas punis, mais la communauté internationale, elle est coupable depuis le début. Elle a été coupable en 1945 de dire ce que les Juifs ont subi, c'est le peuple palestinien qui va payer la note. Ce qui était fou. Je veux dire que si la communauté internationale avait dit les Juifs, on a vraiment déconné, 6 millions de morts, maintenant vous avez l'égalité des droits et totale, et ce qu'on leur a dit, c'est maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. Et ça a continué sans arrêt. Et jamais, chaque fois que l'ONU a fait une résolution contre Israël, il n'y a jamais eu l'obligation de le faire. Je donne l'exemple, 1948, l'ONU vote la résolution 194 sur le retour des réfugiés palestiniens. Que fait Israël? Elle détruit 500 villages palestiniens, elle efface leur nom, elle efface leurs traces, elle interdit aux réfugiés de rentrer, et Israël est admis à l'ONU avec la petite phrase que Israël respecte le droit international. Et ça a été tout le temps comme ça. En 1967, vous devez quitter les territoires occupés. Le ministre des Affaires étrangères israélien de l'époque, Abba Eban, monte à la tribune de l'ONU en disant « Vous voulez nous faire revenir dans les frontières d'Auschwitz ?» Et puis voilà, ils ne sont pas partis, ça fait 56 ans, et il y a maintenant 1 million de colons dans les territoires occupés. Donc tant que la communauté internationale ne comprendra pas que c'est par la contrainte qu'on va obliger Israël à respecter le droit international, c'est la barbarie, et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que Israël se comporte comme un enfant à qui on n'a pas appris les limites. J'ai été prof, j'en ai eu quelques-uns comme ça, c'est pas toujours facile à gérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où jamais on leur dit « Ah non, là t'as franchi un pas, c'est pas possible », ils vont aller plus loin. Et ils ont des fascistes, le fascisme sioniste, il existe depuis plus d'un siècle. Ils ont des fascistes qui ont toujours compris que tant qu'on leur aura pas signifié les limites, ils vont continuer. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Puis, la communauté internationale, elle porte la responsabilité majeure. Que dire qu'Israël est un État démocratique quand ils commettent un génocide, c'est une responsabilité majeure. Continuer à commercer avec eux, continuer à les défendre bec et ongles, essayer de criminaliser le mouvement de soutien à la Palestine, comme Darmanin a essayé de faire dès le 7 octobre, oui, c'est une responsabilité majeure. De toute façon, il faut se battre. Et il faut se battre, je te l'ai dit, sur deux fronts, qui est aider la société palestinienne à ne pas être et obliger et créer un rapport de force pour obliger nos gouvernements complices à cesser de l'être. L'espoir, qu'est-ce que je peux dire? La situation du monde va évoluer, mais là, il y a deux choses qui se jouent. La direction est prise par les États féodaux patriarcaux du Golfe, mais dans quelle mesure ils vont pouvoir continuer à s'opposer franchement à leur opinion publique. C'est compliqué pour eux parce que même dans un pays comme le Maroc, il y a des manifestations quotidiennes pour la Palestine. Dans le monde occidental, il y a quand même eu des manifestations monstres à Chicago, à New York, y compris de la part des Juifs états-uniens, à Londres. Et puis, en soutenant ouvertement Netanyahou et ses massacreurs. Jusque-là, le monde occidental disait c'est les méchants qui ne respectent pas le droit international, c'est la Russie en Ukraine, ce qui est authentique, c'est l'Iran, c'est la Syrie, y compris contre leur peuple, c'est la Chine. Sauf que là, en soutenant militairement une armée génocidaire, avec au vu de tous, en permettant et en légalisant l'assassinat de milliers d'enfants, ils sont passés aussi dans ce monde. C'est-à-dire que ce qui se joue aujourd'hui, c'est est-ce que le droit international tel qu'il est défini, même s'il a été constamment violé, notamment au moment des guerres coloniales, le droit international tel qu'il a été défini en 1945, est-ce qu'il part à la poubelle, ce qui voudra dire la loi de la jungle généralisée et la loi du plus fort. C'est un certain danger pour les libéraux qui sont au pouvoir en Occident. Parce que ça, ils savent très bien que faire ça, ça veut dire une extrême droite partout. C'est peut-être le calcul qu'ils ont fait. Mais ce qui se joue aussi avec la guerre en Palestine, c'est est-ce qu'il va y avoir l'extrême droite partout avec la loi du plus fort, avec des conflits totalement incontrôlables, avec la loi de la jungle. Je pense que les dirigeants capitalistes doivent aussi réfléchir à ça et que ça fera partie de leur réflexion. Donc pour nous, continuer sur les deux fronts qu'on a, c'est impératif. Je fais pas de prédiction. Personne n'aurait prédit ce qui allait arriver. On était au Caire le 7 octobre avec notre correspondant palestinien. Il était ébahi de ce qui arrivait. Personne ne peut prévoir aujourd'hui l'avenir. En tout cas, on n'a pas d'autre choix que lutter.
On n'a pas d'autre choix que de lutter, nous dit Pierre Stamboul. Lutter en Occident contre l'actuel gouvernement sioniste n'est pas une action antisémite, mais plutôt une action pour protéger les Palestiniens, mais aussi les Juifs qui vivent en Israël et dans le monde entier. Je remercie Pierre Stamboul qui a accepté depuis Marseille de dialoguer avec nous à distance dans une période aussi tragique pour le peuple palestinien. Je vous rappelle que Pierre Stamboul est membre de l'Union juive française pour la paix et sur le site de cette association, vous pourrez suivre l'actualité de la guerre que l'armée israélienne mène depuis plus de 3 mois contre le peuple palestinien et vous pourrez, si vous le souhaitez, aider financièrement cette association qui essaie de secourir les Palestiniens en détresse à Gaza. Pour terminer cette émission, nous allons entendre encore une chanson de Joubran Kamilia. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
والنسيان صرختك المكتومة، صرختك المرة في الأذن السماء.
Je vois passer un bateau, j'ai envie de me foutre à l'eau et d'enjamber le bastingage et vivre entre le ciel et l'eau le reste de mon âge. J'ai envie d'aller où il va, remonter le long de Java, descendre à terre le soir au mouillage et rire comme un étranger. Un rire qui fait éclater la rose bleue d'un tatouage. J'ai envie d'aller loin d'ici, brûler ma vie dans ces pays où les cargos éventrent les collines.
Bonsoir, c'est Jazz Lib, Radio Libertaire 89.4, l'émission Jazz Lib avec Yves au micro. C'est une émission ce soir enregistrée. Nous vous présentons à nouveau nos bons vœux pour la nouvelle année, en espérant qu'elle soit meilleure. Mais bon, je ne ferai pas d'hypothèse hasardeuse sur le sujet. Ce soir, nouveauté, réédition, inédit, on va essayer de faire tout ça. N'oubliez pas de vous connecter sur le site de la radio de façon à pouvoir avoir accès à l'agenda. Vous avez les émissions en podcast pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Et alors, grande nouvelle, vous pouvez maintenant écouter votre radio préférée en norme DAB+, c'est-à-dire en digital, sur Paris et région. De façon à avoir une meilleure qualité si jamais vous êtes équipé. Voilà, inutile d'appeler donc ce soir puisque l'émission est enregistrée. Néanmoins, vous pouvez télécharger la souscription sur le site de la radio car nous avons besoin de votre soutien actif pour maintenir la radio de qualité, entretenir le matériel, le changer éventuellement. Voilà, donc vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est votre rendez-vous avec le jazz et c'est Jazz Lib Radio Libertaire, donc on va commencer par les nouveautés. Alors une fois n'est pas coutume, ce soir on commence par un spécial copinage puisque en fait je vais vous passer un extrait d'un album qui est déjà ancien, qui a été enregistré en 2019. De Laurent Katz, il s'agit du Laurent Katz Quatet. Alors pourquoi je dis spécial copinage, parce que Laurent est un animateur de la radio et qui est également pianiste, donc c'est un collègue. Et donc, et ben voilà, il m'a confié son disque très récemment et donc il est accompagné pour l'occasion par Mourad Bedamou à la batterie, Malo Mazurier à trompette et au bugle, Olivier Zano, je crois, au saxophone alto, Didier Aboyan à la flûte et Raphaël Dever à la contrebasse. Alors, Didier Aboyan à la flûte, il est sur deux titres seulement. Donc, nous allons commencer par deux thèmes. Nous allons écouter deux thèmes consécutivement de ce quintet qui est tout à fait honnête. Hein, voilà, soyons clairs, ce n'est pas la grande révolution, mais néanmoins, ce sont des musiciens qui ont plaisir à jouer. Et somme toute, c'est déjà pas mal, c'est même plutôt très bien. Donc, il s'agit de... Nous allons écouter successivement Get Out of Town de Cole Porter et If I Should Lose You de Robin et Ranger. Voilà, c'est parti.